Dans un monde où le temps est donc bien précieux et où le stress semble constant, comment trouver l'équilibre parfait entre la productivité et le bien-être? En fait, y a-t-il vraiment un équilibre entre les deux? Aujourd'hui, je reçois Marie-Ève Saint-Germain qui vient nous parler du droit au repos, comment intégrer la sieste, le repos dans sa gestion du stress de manière quotidienne, et on va parler de sa vision, en fait, du repos. « 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. » Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. « 180 degrés » est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. J'ai l'immense plaisir de vous présenter Marie-Ève Saint-Germain, la fondatrice d'Espace Mental et une fervente activiste du droit au repos. Oui, oui. Après avoir surmonté un épuisement professionnel, Marie-Ève s'est engagée dans une mission pour démocratiser la sieste et promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et détente. Avec une expertise en méditation et Nidra, elle apporte des solutions innovantes pour réduire le stress en milieu professionnel. Elle est également une sieste influenceuse passionnée qui aime susciter des discussions sur le bien-être au travail. Dans cet épisode, j'ai envie qu'on plonge dans son parcours inspirant et de découvrir comment intégrer la relaxation et la gestion du stress dans nos vies d'entrepreneurs, parfois trop chargées. Officiellement, bienvenue Marie-Ève!
Merci, allô et Mélanie!
Je suis super contente de te recevoir et de te jaser de repos, de sieste. Ouais. Quand tu m'as proposé ce sujet-là sur le podcast, au début, je savais pas comme... Comment je te dirais bien ça? Je savais pas comment intégrer ça dans la ligne éditoriale du podcast. Puis là, je me suis demandé, mm-hmm. Mais c'est intéressant. Puis après ça, je me suis rappelé à quel point, comme entrepreneur, on résiste au repos. Mm-hmm. Et je me suis dit, non, c'est une bonne idée. C'est une excellente idée qu'on en jase. Fait que je suis très contente qu'on passe ça aujourd'hui.
Bien, je suis vraiment contente d'être là. Puis je suis contente de venir parler de droit au repos. Et de
droit
comment
au
apprendre.
Repos.
Ouais, c'est ça, de comment c'est apprendre à se reposer dit. Un peu plus. Ouais.
Ouais, ça m'a. En fait, quand tu m'as parlé de droit au repos, je pense que c'est ça qui m'a le plus comme interpellée. Mm. J'ai dit, le droit au repos, OK, c'est un droit, comme un droit fondamental de l'être humain.
Mais ce l'est. Selon la charte de l'ONU, ce l'est. C'est un droit fondamental, le repos. Mm. Ça fait partie des droits de l'humain. Ouais.
Puis on le laisse de côté beaucoup dans nos... Je parlais dans, bien sûr, dans nos vies d'entrepreneurs, mais tu sais, dans le milieu du travail, c'est aussi un enjeu, comme on en parlait avant. Ouais. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, là, parce que j'ai million de questions pour toi.
Vas-y.
J'ai le goût quand même que tu nous parles de ton parcours. Là. Je l'ai dit un peu en introduction. Méditation, Nidra, avec un peu de yoga, épuisement professionnel. On remet-tu les pièces du puzzle en place? Peux-tu nous parler de ton parcours?
Oui. Bien, je dirais que l'histoire là, qui me convient le mieux, là, que je raconte quand même régulièrement, c'est que c'est ça, je suis spécialisée en méditation puis en relaxation profonde, qu'on appelle aussi du Nidra. Puis ça, tout ça est arrivé parce que j'étais prof de yoga, j'avais d'autres emplois, j'ai une personnalité assez intense, je dirais, ça fait vraiment partie de moi. Puis des dépressions, j'en ai fait plus qu'une dans ma vie, sans rentrer dans les détails, mais l'avant-dernière que j'ai faite, parce que je ne vais pas... Je vais être honnête, puis j'en ai fait une autre après quand même. Mais l'avant-dernière que j'ai faite, c'est vraiment celle-là qui a comme débuté toute la réflexion sur le droit au repos, puis le fait que j'avais énormément de difficultés à ralentir, puis à moins être performante. Puis c'était vraiment, c'est ça, j'étais sur le bord de la mer, j'avais un job de rêve. J'avais réussi à rentrer dans une auberge, puis j'avais juste un cours de yoga donné, front beach, des palmiers, le soleil, en plein hiver, j'étais au Nicaragua. C'était vraiment parfait. Puis je finissais une rupture, fait que je m'en allais là pour genre 100% me reposer, lire des livres, faire du yoga, puis être sur le bord de la plage. Puis ça m'a pris, de par ma personnalité, je dirais que ça m'a pris à peu près 3 semaines. J'avais déjà parti 3-4 projets dans le village. Un très petit village qui méritait peut-être pas 3-4 projets en même temps. Donc, à peu près 1000 personnes maximum. J'avais commencé à travailler avec les enfants dans le village, puis ça m'a pris un mois, puis j'avais commencé à donner des cours de yoga dans les autres hôtels. Tout ça pour dire qu'en moins de 3 mois, j'ai réussi à m'épuiser sur le bord de la plage. Pendant que j'étais supposée me reposer, que ma seule job, c'était de donner un seul cours par jour, j'ai fait tout le contraire de ça. Et cela dans un environnement qui, pour moi, était parfait, avec un travail parfait. C'est ce que j'avais cherché. J'avais cherché l'extérieur, réussir ma vie en ayant le job parfait, les amis parfaits, l'endroit parfait, l'environnement parfait, la maison, l'endroit où je dormais parfait. Puis j'ai réussi à m'épuiser quand même. Fait que de là est partie ma réflexion de « OK, ben comme si je réussis à… » Parce que je suis capable d'avoir du succès dans ma vie d'une certaine façon. Je réussis à placer tout autour de moi pour que ma vie soit paisible, mais je réussis pas à être paisible. Puis ma vie devient un chaos, même si tout autour semble être paisible. Fait que c'est ça, la réflexion est partie de là. Qu'est-ce qui fait en sorte que moi, je suis pas capable de ralentir? De là, on est découlé. C'est ça, ma spécialisation en méditation, éventuellement en relaxation profonde, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexions sur la difficulté de ralentir, la difficulté de se reposer. Personnellement, puis après ça, c'est là que ça a commencé plus cette année. Là, j'ai commencé à élargir mes réflexions sur la société en général. Ouais. La société dans laquelle on vit, puis que c'était peut-être pas juste de ma faute à moi si j'étais pas capable de ralentir, mais que c'était aussi contextuel, social, que c'était économique, que c'était familial, qu'il y avait plein d'autres raisons de pourquoi est-ce que j'étais pas capable de ralentir, ou du moins pourquoi est-ce que je me sentais aussi mal à l'aise de me reposer quotidiennement.
Ça, effectivement, c'est quelque chose qui, je pense, qui est plus grand qu'à notre échelle personnelle, pourquoi on résiste justement à se reposer, puis c'est à quel moment qui est venu, la graine qui a été semée pour l'entrepreneuriat, pour avoir une entreprise qui promouvoit le repos, la sieste et tout ça. Comment ça s'est né?
Oui, c'est né assez rapidement. Bien, ça fait comme 4 ans que je travaille là-dedans, que j'essaie de promouvoir la méditation, les relaxations profondes, que j'essaie de promouvoir le ralentissement. J'ai essayé plein de formes, puis c'est ça, il y a à peu près 9 mois, je me suis vraiment installée, puis je me suis dit que j'aimerais savoir une entreprise au Québec qui promouvoit la relaxation, même si c'était un peu fou de vouloir démocratiser la sieste et le droit au repos, mais je l'ai comme bien structuré, puis je me suis dit que ça valait la peine de l'essayer. Tout simplement. Puis le fait que j'ai comme, tu sais, c'est que je baigne un peu tout le temps là-dedans, tu sais, fait que je rencontre des gens, je suis allée à des conférences, j'ai fait des formations, puis je baignais beaucoup dans le droit au repos, surtout des gens qui viennent des États-Unis, comme Tracy Stanley, Trisha Hershey, des gens super inspirants, puis j'observais qu'au Québec, il n'y avait pas vraiment de gens qui parlaient de ça, puis moi, j'en parlais tout le temps avec les gens en anglais ailleurs. Fait que c'est ça. De là, on est découlé le... Ben, je pense que je vais le commencer au Québec parce qu'il y a une place pour ça en ce moment.
Puis là, dans le fond, par rapport à ton modèle d'affaires actuellement, ce que tu proposes, c'est des ateliers, des conférences. Comment tu as bâti, en fait, cette entreprise-là? Tu l'as modelée, j'imagine, aussi à ce que toi, tu avais envie de proposer comme alternative, comme solution, j'imagine?
Oui, ben comme c'est ça, je le répète, beaucoup de réflexions. Tu sais, je me suis pas juste lancée pour me lancer. Ça a pris du temps. Je me suis assise à comment est-ce que je devais mieux le faire. Puis ce que j'observais, parce que j'ai essayé de rentrer en méditation principalement là, dans les entreprises au début, puis j'avais souvent des noms, puis j'ai la sincère impression qu'il y a beaucoup de mythes qui traînent avec la méditation. Les gens ont peur de méditer, les gens ont déjà essayé de méditer, ça n'a pas fonctionné pour eux. Puis là, moi, je leur disais non, moi, j'ai des méditations qui sont extrêmement faciles, guidées, c'est tout le temps les feedbacks que j'ai. Puis c'est comme si on me croyait pas juste parce que les gens avaient déjà eu une mauvaise expérience avec la méditation. Puis pour moi, les relaxations profondes, c'est encore mieux que les méditations pour ce qui est... pour ce qui est de relâchement musculaire, de relaxation d'onde cérébrale plus lente. Puis je me suis dit, ça non plus, ça passera pas, le mot relaxation profonde ou le nidra. J'avais pas envie de rentrer dans le côté spirituel du yoga non plus. Puis c'est ça, il y avait personne qui parlait de sieste. Fait que je me suis dit, tiens, je trouve qu'une sieste guidée, ça pourrait être accrocheur. Et c'est là que j'ai parti l'entreprise qui est basée sur la démocratisation de la sieste et du droit au repos. Puis c'est ça, comme tu disais, je donne des conférences puis des ateliers. Fait que j'offre des services en entreprise, tout comme j'offre des services à l'individuel dans le sens où j'ai des packages de relaxation profonde guidée, de sieste, micro-sieste guidée que les gens peuvent télécharger ou des méditations que les gens peuvent télécharger. Mais mon but, c'est de parler le plus possible pour que mon message résonne. C'est pas mon message, mais que le message que je porte résonne au plus de gens possible.
Mm-hmm. Puis tu sais, là, dans le fond, dans les questions que j'avais en préparant notre entrevue, tu parles de sieste guidée, de relaxation profonde. Ouais. Est-ce que cette vision-là se rapproche de ce qu'on on entend beaucoup parler des les fameuses power naps, là, les genres de micro-siestes qui te redonnent un petit regain. Est-ce que toi, ça ou c'est un autre concept complètement dans ton approche?
Bien, je ne peux pas dire que c'est un autre concept complètement. Là. Ça se ressemble, mais ça ne se ressemble pas pour moi.
Oui, c'est ça.
Un bon power nap, ce sera entre 10 puis 20 minutes.
Okay.
Selon les études, c'est pour avoir un vrai power nap très court.
Ouais.
Mais la plupart des gens, puis ça, c'est ce que j'observe là, quand je vais dans les entreprises ou quand je parle à des clients, d'habitude, c'est moitié-moitié. Il y a la moitié des gens qui réussissent à siester. L'autre moitié dit, moi, j'ai jamais réussi à siester. Si je me couche sur un divan ou dans mon lit ou que j'essaie de fermer les yeux, mon cerveau, il part, mes pensées n'arrêtent plus. Puis c'est encore plus stressant que si je n'avais pas essayé de siester. Ouais. Il y a des gens qui réussissent à s'endormir super vite. Prenez des power naps, c'est vraiment parfait pour vous. Il y a des gens comme moi, que de ce que j'observe, qui est pas mal moitié-moitié là, pour l'instant dans la société, il y a des gens comme moi qui sont pas capables de juste se coucher puis dire, bon, genre, je m'endors pendant 10 minutes, je me réveille, je suis énergisée, rafraîchie et je peux repartir le travail. Ça va me prendre trop de temps m'endormir, fait que c'est pas une bonne solution pour moi.
Mm-hmm.
Juste un power nap. Et de là, c'est ça, le fait de le guider, qui pour moi est la différence entre un power nap puis une micro-sieste guidée. Une micro-sieste guidée là, va durer entre 15... du moins ce que moi j'offre, là, entre 15 et 26 minutes maximum.
Okay.
Puis c'est que c'est guidé, en fait. Fait que je laisse pas les gens tout seuls. C'est pas juste j'installe un environnement, puis on va se coucher, puis on relaxe ensemble, on ferme tous les yeux, puis débrouillez-vous avec ça. Donc je vais le guider. Fait que c'est des techniques de relaxation profonde au final.
Oui. Donc ça fait du sens. Puis tu sais, moi en fait, souvent je dis ça... À mon ami qui me propose souvent plein de belles méditations à essayer.
Ouais.
Puis moi, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans mon cerveau. Là. Si je pars une méditation en position allongée, c'est sûr que je m'endors. Il y a quelque chose de comme... Je pense que je suis trop fatiguée. C'est ça le message aussi. Dans le sens que j'ai de la misère, ça m'apaise tellement que je finis par m'endormir. Puis,
Ouais. Mais c'est pas mauvais de t'endormir. Non. Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire avec la méditation. T'sais, ça dépend c'est quoi, ou la relaxation. Ça dépend c'est quoi ton objectif. Si c'était de relaxer, t'as clairement réussi en t'endormant 10-15 minutes.
Oui, ça, c'est... Non, mais des fois, c'est des méditations avec genre des visualisations, tu sais. Puis là, t'es censé comme cheminer dans tout ça. Puis je me dis, mon Dieu, j'ai rien cheminé, j'ai dormi, là. Ça a fait du bien, par exemple.
Mais... j'en connais aussi des gens là, qui s'endorment super facilement comme ça. Puis dans les conseils que je donnais là, quand j'offrais beaucoup plus de méditation, c'était couchez-vous pas, tu sais, pour vrai, rester debout, rester assis. Il y en a qui s'endorment assis. Fait qu'une des solutions, c'était aller faire la méditation en marchant.
Oui.
Tout simplement.
Ça peut m'arriver aussi assise,
Oui, c'est ça, je connais. C'est ça, je connais des gens aussi qui s'endorment assis. Je trouve ça impressionnant. Bravo.
Oui, puis même la notion de power nap, là, je me rends compte, même si je sens comme, tu sais, je sens mon corps qui veut dormir.
Oui.
Puis mettons que mon horaire me le permet, tu sais, que je fais comme, je vais aller m'étendre un petit peu. Puis vraiment, j'ai remarqué, là, je vais vraiment faire comme, tu sais, l'espèce de cycle, le premier cycle là, de sommeil. Ouais. Là. Fait que je rentre pas dans le sommeil profond, mais je me réveille. Puis c'est drôle parce que je me réveille, il y a pas de bruit, il y a rien qui me réveille, mais c'est comme mon cerveau qui fait comme, OK, c'est beau, t'as fini ta sieste. Fait que je sais pas...
C'est combien de temps ça pour toi?
Je pense à peu près une vingtaine de minutes. Fait que c'est comme si mon cerveau est entraîné au power nap sans que j'ai rien eu besoin de
tant
faire.
Tant mieux. Tu parlais de cycle de sommeil, mais un cycle de sommeil, c'est à peu près 90 minutes là, pour la plupart des gens.
Le complet,
Le complet, c'est le 90 à 120 minutes, ça, c'est un cycle de sommeil complet pour les gens. Puis c'est pour ça, tantôt, que je disais 26 minutes, c'est parce que pour s'assurer qu'on tombe pas trop loin dans notre cycle de sommeil, c'est important de le faire en bas de 26 minutes à peu près. Puis là, c'est full précis, mon 26 minutes, là, mais c'est parce que la NASA, elle a fait des recherches quand ils ont envoyé des astronautes dans l'espace parce qu'ils voulaient être sûrs que ils ont tellement étudié le sommeil pour être certains que les astronautes pouvaient être hyper vigilants rapidement en se réveillant. Puis si on dépasse ces 26 minutes-là après leurs études, c'est juste que ça va comme être... On tombe trop loin dans notre cycle de sommeil. Puis là, techniquement, il faudrait faire le 90 minutes au complet pour en ressortir...
avec des bénéfices.
Rafraîchi, là. Avec des bénéfices, puis être vigilant, puis alerte. Si on le garde en bas de 26 minutes, ish, ça peut être plus facile de comme juste se relever, puis pas sentir qu'on est fatigué, puis qu'on voudrait quasiment faire une nuit complète, là, puis que c'est difficile de recommencer à travailler ou à faire des choses. Fait que c'est ça les études qui ont été faites, là, puis c'est pour ça que je garde toutes mes affaires en bas de 26 minutes, parce que c'est... Puis là, tu disais, je tombe pas dans un sommeil profond, mais c'est plus le contraire, en fait. Les débuts du cycle de sommeil, c'est les sommeils, c'est le sommeil de non-rapid eye movement, fait que des yeux, pas les yeux qui font des mouvements. Puis quand les yeux font pas des mouvements, c'est parce qu'on rêve pas. Puis ça, c'est le sommeil profond. Ça, c'est le sommeil... Il y a trois stages de sommeil, trois phases de sommeil profond. Mais n'empêche que c'est quand même le bout de sommeil profond. Puis ça, c'est au début du cycle. Ah, c'est le premier, comme... C'est ça, 26 minutes.
Je croyais le contraire. Plus.
Non, c'est ça. C'est à la fin de notre cycle de sommeil de 90-120 minutes que là, on va avoir du rapid eye movement, qui sont les rêves. Oui. Puis que c'est ça. On est plus actif au final quand on rêve. Le cerveau est plus actif. Mmh. Quand on rêve pas, le cerveau va être un peu plus lent. Puis c'est là qu'on va consolider la mémoire parce qu'il est un peu à off. C'est là aussi que les ondes cérébrales vont ralentir. C'est là qu'il y a beaucoup de créativité qu'on peut aller chercher parce qu'on... On réfléchit mieux en sortant de la sieste. Il y a des gens qui réfléchissent dans la sieste, là. C'est correct, c'est vraiment sans jugement.
Je peux pas te dire.
Non, c'est ça. Mais en sortant de la sieste, n'empêche que les pensées sont beaucoup plus claires, plus lentes. Les ondes cérébrales sont plus lentes. Et ça l'aide énormément à mieux réfléchir, mieux agir au lieu de réagir, par exemple. Avoir une meilleure humeur, tout ça. Fait que, c'est ça. Mais moi, ça, c'est les cycles de sommeil. Puis plus on avance dans notre nuit... Hey, je vais juste finir avec ça parce que moi, je trouve ça vraiment trippant.
C'est intéressant.
Mais comme à la fin de notre nuit, on a une plus longue période de rêve, dans le fond. C'est que plus on avance dans nos cycles, on en a à peu près 5-6 dans notre nuit.
Mm-hmm.
Puis le 5-6e, c'est là où on va rêver plus. Fait que la période de rêve est plus longue. Puis c'est pour ça que le matin, on se rappelle plus de nos rêves aussi. Puis qu'on a l'impression qu'on rêve plus le matin parce qu'on rêve plus le matin. Fait que si j'avais un conseil à donner, c'est lésinez pas sur les premiers cycles de la nuit. C'est là où le sommeil récupérateur, il est le plus. Les périodes de sommeil récupérateur, sommeil profond, sont plus au début de votre nuit. Puis le matin, ce serait plus des rêves dans les cycles de sommeil.
Hey, ça me fait penser, mon père, il me disait tout le temps, quand j'étais plus jeune, que le sommeil avant minuit était plus récupérateur. Puis là, mais c'est-tu vrai? Hein? Parce que ça m'arrive souvent de me coucher à minuit. Fait que là, j'ai-tu manqué le bateau?
Non, t'as pas manqué le bateau. Puis je veux pas que les gens se stressent avec ça non plus.
Non,
je sais. T'sais, première chose, c'est qu'on a tous des rythmes circadiens différents. C'est-à-dire qu'on est tous... On a toute une espèce d'horloge de sommeil et d'éveil qui est différente. Fait que si toi, à minuit, tu te sens à l'aise de te coucher parce que t'es capable de te réveiller plus à 8h, 9h, sans trop stresser... Vas-y. Il y a des gens comme moi qui, à 9-10 heures, le cerveau ne fonctionne plus du tout. Je ne suis pas du tout allumée, puis il serait probablement temps que j'aille dormir. Fait que ça dépend. C'est ça, c'est que je ne veux pas dire qu'avant minuit, c'est meilleur, parce que ça va dépendre de vous, c'est quoi votre cycle de sommeil. Je dis vous en général, là, pas vous, toi.
Oui.
Mais n'empêche que c'est vrai qu'il faut faire vraiment attention à nos premiers cycles, parce que ce qui arrive, c'est que le rythme circadien, ou l'horloge du sommeil éveille, le sait pas que, qu'on va se réveiller à 6 heures du matin parce qu'on est obligé d'aller travailler. T'sais. Il sait un peu, mais notre cycle de sommeil ne va pas s'adapter à ça. Fait que si on se couche à 1 heure du matin, mettons, puis pour nous, c'est pas tant bon qu'on se couche à 1 heure du matin, qu'on se couche à 1 heure, ben là, on a comme enlevé, effacé le premier cycle du sommeil qui est en effet celui qui a le plus de sommeil réparateur. Puis c'est comme si on tombait direct sur le 2, sur le 3, sur le 4. Puis là, sur le 5, des fois, on est comme rendu en 5e vitesse. Puis là, il faut se réveiller parce que l'alarme, elle sonne. Puis là, en plus, on a perdu notre 6e. Fait quoi? De faire attention à nos premières heures de sommeil, ça peut aider à la récupération physique puis de la mémoire et tout ça. Ouais.
Parce que tantôt, je te disais que je croyais ne pas entrer dans le sommeil profond dans... Ouais. Les, mettons, 15-20 premières minutes, c'est que souvent, j'ai remarqué, plus je tombe vraiment dans le sommeil, en tout cas, on s'en va ailleurs après, mais dans les premiers moments du sommeil, c'est là que s'il y a un bruit, je me réveille instantanément avec beaucoup d'adrénaline. Je sais pas comment l'expliquer, c'est ça me sort. Mettons, mon chum, il se met à ronfler. Mon chum ronfle énormément. Fait que si j'ai eu le malheur de m'endormir et que dans les 10 à 15 premières minutes que je me suis endormie, là, il se met à ronfler, ça me réveille. Mais tout le reste de la nuit, non, ça me réveille pas. Mais ce premier, c'est comme... C'est incroyable, là, on dirait. Cette phase-là, pour moi, est très... comme si je dormais pas sur mes deux oreilles, tu sais.
C'est quand même, ça se peut, tout à fait. Puis le premier cycle, de toute façon, on a une partie qui s'appelle du light sleep. Du sommeil léger. Fait que c'est normal qu'on se réveille plus. C'est comme si... la conscience est encore un peu dans l'espace, fait qu'on est encore conscient de ce qui se passe autour de nous. Puis ça, c'est le sommeil léger. Puis c'est juste dans le premier cycle du sommeil que ça part, fait que qu'il y en a. C'est vrai que dans les autres cycles, vu qu'on là, on fait comme des vagues de cycles de sommeil, ben on retombe pas nécessairement là, dans le sommeil léger, à moins qu'on se lève. Puis tu sais, il y a plein d'autres. Là, j'y vais dans des grosses généralités.
Oh, on est vraiment en train de parler de sommeil, mais
c'est ça que je fais. Je parle de sommeil, de droit au repos.
Mais je m'en allais pas là, mais je trouve ça full intéressant. Fait que, mais tu sais, tu as un peu abordé aussi la question par rapport à la créativité, par rapport à l'effet que ça a, cette sieste-là. T'as-tu d'autres exemples par rapport à nos vies d'entrepreneurs? Comment on peut aller chercher des bénéfices? Et mettons que tu aurais à convaincre un entrepreneur qui ne sieste pas présentement que ça serait bon d'essayer. Qu'est-ce que tu dirais?
J'ai pas... Ouais, c'est ça. J'ai pas tant envie de convaincre les personnes qui veulent pas.
mais qui ont pas essayé, mettons.
Non, c'est ça. Ben je dirais... Puis là, ça va être full spécifique, là, parce que je suis vraiment là-dedans. Je suis en train d'écrire un blog. Mais, tu sais, c'est ça, les recherches de la NASA que je décrivais tout à l'heure. Il y a vraiment aussi des recherches après ça qui ont prouvé qu'au travail, tu sais, pour le travail, la sieste vraiment, là, ou le power nap, va aider à être plus performant d'à peu près 34% dans notre travail. On va être plus performant de 34% pendant notre travail, puis on va être plus vigilant on va avoir 54% plus de vigilance quand on travaille après une sieste. Puis ça, c'est des pourcentages, fait que c'est juste, tu sais, pour mettre un chiffre, mais sinon, vraiment plein de bénéfices de siester, puis de faire attention à notre sommeil. Puis tu sais, c'est pour ça que pour moi, sommeil puis sieste, ça se différencie pas. Ça va vraiment ensemble parce qu'on touche des phases de sommeil profond avec la sieste, puis c'est ça pour moi, là, les plus grands bénéfices. On vient récupérer du temps de sommeil profond. Fait que si ton début de nuit a été rough, ou si tes enfants t'ont réveillé pendant la nuit, ou si tu as été obligé de te réveiller à 5 heures du matin pour X raisons, ce qui fait partie de l'expérience humaine, là, comme je suis pas là pour promouvoir, là, il faut absolument que tu aies 8 heures, puis que le sommeil soit parfait, puis que tu n'aies pas d'insomnie, puis que tu te réveilles pas pour aller aux toilettes. Mais on vit toute une expérience humaine. Puis, ben c'est ça. Comme après ça, ça peut faire la sieste en plein milieu d'après-midi ou à un autre moment peut aider à récupérer du temps de sommeil profond. Fait qu'on vient comme toucher, c'est ça, le début du cycle. Puis ça, c'est super récupérateur physiquement. Pour la mémoire, ça nous rend plus alerte, plus vigilant. Pour les gens qui travaillent dans des grosses compagnies, qui sont pas travailleurs autonomes, ça a été prouvé que ça va réduire la fatigue. Puis il y a souvent des gens qui sont fatigués dans des emplois physiques. Puis quand on réduit la fatigue, ben on réduit le nombre d'erreurs qui sont faites, le nombre d'accidents qui sont causés par la fatigue. Tout ça, puis la créativité, je trouve ça full intéressant parce que c'est vraiment le truc qui m'a le plus accroché quand j'ai commencé à faire des relaxations profondes parce que c'est exactement ça. Tantôt, j'en faisais une sieste guidée, mais en tout cas, je m'auto-guidais ou je me laissais relaxer là, sur mon lit. Puis de là, on est ressorti plein d'idées. Puis il y a plein de mythes autour de ça que quand on réussit à toucher cette fine ligne-là entre le sommeil et l'éveil, puis qu'on réussit à être conscient pendant ce moment-là, c'est rempli de créativité parce que le cerveau va beaucoup plus lentement. On réussit à targeter des pensées plus claires. Puis il y a des gens, c'est ça, je parlais de mythes, mais il y a des gens qui ont souvent utilisé la sieste. Il y a des mythes qui disent, par exemple, que Einstein utilisait une cuillère de métal qui s'assoyait, puis que partir sa créativité, il s'endormait ou il essayait de s'endormir. Puis quand il touchait pile ce moment-là où on est sur le bord de s'endormir, mais la cuillère a tombé, ça faisait du bruit, il se réveillait. Puis c'est là qu'il aurait trouvé là, dans ses plus belles idées. Il y a aussi le mythe de Newton qui dormait sous un arbre, tranquille, quand la pomme est tombée sur sa tête. Il siestait en dessous d'un arbre, la pomme est tombée sur sa tête, puis il a pensé à la théorie de la gravité. Fait que ça a été prouvé de nombreuses façons que de venir se pratiquer à placer notre cerveau dans cet état-là, de entre sommeil et conscience. Et là, tout devient un peu plus clair. Ma créativité s'en va un peu partout parce que je suis un peu proche du rêve aussi. Vraiment intéressant de travailler avec ça. Vraiment.
Puis, est-ce qu'on doit ressentir un état de fatigue pour siester ou toi, c'est vraiment comme ancré dans ton horaire? Comment tu gères ça?
C'est pas du tout ancré dans mon horaire.
OK, parfait, rassure-moi. Merci.
Je ne mets pas du tout cette pression-là.
Ouais, c'est ça. Mais il faut jamais siester, là.
Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je trouve que de mettre une tâche de plus dans ma journée, ça me met encore plus de pression puis ça me crée plus de stress que ça m'aide à relaxer. Puis mon but, c'est de relaxer. Fait que ça fonctionne pas pour moi dans ce sens-là. Après ça, non, pas besoin d'être fatiguée. Pas du tout. Tu sais, je l'ai pratiqué, ça fait comme 4 ans, 5 ans là, que je teste avec des relaxations profondes. Puis je les ai toutes essayées, là, les heures de la journée, là, à différents moments de ma vie. Fait que je les ai essayées en me réveillant le matin. Quand on est encore dans la phase de rêve, tu te réveilles, tu te lèves, tu te mets à un autre endroit que ton lit, tu fais une relaxation profonde, puis tu pars ta journée comme ça. Je l'ai essayé en plein milieu d'après-midi, quand c'est là qu'on dit entre 2h puis 4h, normalement, c'est vraiment le meilleur moment pour se donner un break, puis siester. Puis je l'ai essayé juste avant de m'endormir pour m'aider à m'endormir. Fait que dépendamment de ce qu'on veut en faire, de la micro-sieste guidée ou des relaxations profondes, ça peut être un outil pour différents moments de notre journée. Fait qu'au milieu de l'après-midi, pour se régénérer, pour repartir du bon pied, au début de la journée, pour partir peut-être plus calme, plus paisible, moins stressé, à la fin de la journée, pour peut-être s'endormir, tu sais.
Ouais. Ça fait du sens, ça fait du sens. Puis, tu sais, je réalise en t'écoutant, tu sais, moi, j'attends vraiment, là, tu sais, des signes de... Ouais, tu sais, comme t'es en train de bailler ou carrément, t'es devant l'ordi, t'as quelque chose à accomplir, mais tu sais, il y a rien qui sort de bon parce que, tu sais, le cerveau est complètement fatigué, là. Vraiment, il y a une fatigue mentale et physique, là, souvent, pour que vraiment je fasse « OK, ben, je vais aller sur le divan un petit peu m'endormir. » Puis je pense que c'est ça aussi dans ton message là, par rapport à peut-être la culture de l'épuisement. Tu sais, c'est quoi toi ta façon de gérer ton stress au quotidien puis de t'assurer que tu te rends pas à cet état-là que tu as connu avec les dépressions et l'épuisement.
J'ai pas de truc, tu sais, c'est ça. En tout cas, dans les questions préparatoires, il y avait comme c'est quoi les conseils à donner puis des choses comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas de solution miracle, tu sais, j'ai un outil. Mais j'ai aussi beaucoup d'informations. Moi, c'est vraiment ça. Puis c'est pour ça que je parle de droit au repos et non de il faut siester ou il faut se reposer. En tout cas, je le dis des fois là, il faut, mais n'empêche que pour moi, c'est vraiment important le mot droit au repos, c'est-à-dire que c'est pas juste de rentrer quelque chose de plus dans mon horaire ou c'est pas... c'est ça, c'est de me donner le droit. Puis le droit au repos, ça se fait de plusieurs façons. Puis c'est ça que je veux inciter les gens à faire, tu sais. Fait que il y a pas de truc. Puis d'être strict ou de overcompliquer l'affaire, puis de... Parce que là, je l'explique de long en large, mais au final, c'est une sieste, Christy.
Oui, c'est ça.
C'est comme, je suis capable d'en parler longtemps, mais gang, c'est juste une sieste. Puis faites-le quand vous pouvez, faites-le pas quand vous pouvez pas. Tout simplement, faites-le quand vous êtes fatigué, parce que c'est correct, vous vous êtes rendu jusque-là, faites-le quand vous n'êtes pas fatigué. Mais c'est correct si vous vous fatiguez, c'est ça tu le disais, tu sais, la société est quand même intense, tu sais, on roule 24 heures, l'international roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a l'impression que tout est tout le temps urgent, on a comme ce sentiment d'urgence-là qui est ancré en nous. Puis le droit de se reposer, ça se pratique, de se donner le droit de revendiquer son droit à se reposer, ça se pratique et c'est très inconfortable. C'est encore inconfortable pour moi, pour une personne qui a de la difficulté à le faire, justement, mais c'est inconfortable de me donner le droit de ralentir, c'est inconfortable de me donner le droit de siester à 1h de l'après-midi, même si j'aurais des courriels auxquels répondre, c'est inconfortable pour moi de rien planifier le soir ou pendant une fin de semaine. C'est comme si j'avais rien, puis ça peut être stressant. Mais même si c'est inconfortable, je continue de le faire. C'est-à-dire que je continue à pousser à, même si ça ne me tente pas, je ne vais rien faire à soir. Je ne vais pas essayer de sortir. Je ne vais pas essayer de cuisiner pour la semaine. Je ne vais pas... Je vais juste m'asseoir sur mon divan puis attendre de voir qu'est-ce que ça me tente de faire. Si j'ai rien à faire, qu'est-ce que ça me tente de faire? Puis là, des fois, ça me tente de cuisiner, mais il y a des fois que ça me tente de jouer de la musique, puis il y a des fois que ça me tente de peinturer, il y a des fois que ça me tente d'aller prendre une marche, mais je ne m'oblige jamais à prendre une marche, je ne m'oblige jamais à méditer, je ne m'oblige jamais à peinturer pour être en pleine conscience. J'attends de voir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Puis ça, je pense qu'on est full déconnecté de ça. De qu'est-ce que j'ai envie de faire au lieu de « Ah, qu'est-ce qui est sur ma liste de trucs que je devrais cocher pour mon bien-être mental et physique? Il faut que je le coche. Là, j'ai du temps. OK, on va en cocher 4-5. » Tu sais, assoyez-vous. Donnez-vous un horaire libre, une fois par semaine au pire, tu sais, comme un petit bloc. Assoyez-vous, puis attendez de voir tout d'un coup qu'est-ce qui peut sortir de ça.
Ouais, ça me fait du bien de t'écouter parce que moi, exemple, là, l'espèce de culture là, du Miracle Morning, là.
J'aime ça.
Ah, quoi? Comment ça se fait que, genre, tu te lèves le matin, t'as déjà une to-do de 12 km à faire pendant une heure? Comme, à quel point c'est pas tant bienveillant, je trouve, comme... Ouais. Tu sais, tant mieux s'il y a des gens que ça leur fait du bien, mais j'ai comme l'impression, justement, que on veut prendre soin de soi, puis arrêter de se mettre de la pression, puis à l'inverse, ben on instaure une culture du bien-être dans laquelle on se met encore plus de pression. Fait que je suis comme...
Puis je comprends pourquoi on est tombé dans ce panneau-là aussi. Tu sais, c'est ce qu'on reçoit comme message vraiment régulièrement. Puis c'est un gros marketing, là, le marketing du bien-être puis la culture du bien-être. Mais je pense que c'est bien dit, là, tu sais, le fameux Miracle Morning ou le Rise and Grind ou le... J'ai lu aujourd'hui sur Instagram, là, il y a un post qui est passé puis qui s'était écrit quelque chose comme « Si t'as 8 heures à donner de travail à quelqu'un d'autre dans ta vie, t'es capable de te donner 2 heures. » Puis je suis comme « Pour vrai, il y a du monde qui n'a pas 2 heures. » Comme « Viens me dire... » qu'une femme et ou un homme avec 3 enfants ont 2 heures dans leur vie. C'est pas vrai, c'est pas réaliste. Ouais. C'est pas 8 heures de travail, puis après ça, c'est vrai qu'on a 8 heures à nous, puis qu'on a 8 heures de sommeil. La vie, c'est pas compartimenté comme ça. Là. On a plein de choses qui se passent entre tout ça. Puis les gens, c'est ça, si vous êtes capable de vous lever le matin, levez-vous, c'est vraiment correct. Mais respectez votre cycle de sommeil, c'est-à-dire que si... vous pensez que c'est meilleur de vous lever pour aller vous entraîner, même si vous êtes fatigué, avant votre job. Fait que si vous levez, là, les espèces de tendances, on se lève à 5h30 du matin pour avoir un training de 1 heure là, jusqu'à 6h30. Puis là, 6h30 à 7, on lit parce que lire, c'est important. Puis 7 à 7h30, on boit un jus vert. Puis dormez. Dormez, il n'y a rien de mieux pour la santé. Puis c'est prouvé et reprouvé et reprouvé. Il n'y a rien de mieux pour la santé que de dormir. Même si vous avez une bonne diète, même si vous le faites pour de l'entraînement physique, dormir, priorité numéro 1 sur toutes les autres tâches de bien-être que vous pourriez faire.
Je vais garder ce petit clip et je vais l'envoyer à mon chum qui trouve que je dors beaucoup le samedi matin. Mais ça, c'est un autre enjeu parce que moi, je suis un petit peu comme en déficit de sommeil la semaine. Puis c'est comme si la fin de semaine, je me donne le droit de rattraper ce sommeil qui... Tu comprends? Tu sais?
Ou fais-le.
Oui.
Et fais-le.
Ouais. Mais je pense qu'il faut juste me coucher aussi plus tôt la semaine. C'est surtout ça. Je lutte parfois.
Il y a plein de solutions. C'est pour ça que j'ai pas de solution. C'est que tout le monde a une vie différente. Je pense qu'on a tout un rapport différent avec le sommeil puis notre travail. Fait que c'est important pour moi de pas dire il faut absolument siester tous les jours ou voici 5 trucs pour mieux vous reposer dans la journée. On s'en fout un peu, tu sais, c'est ça. Rajoutons-nous pas des tâches, mais réfléchissons à c'est quoi pour moi le droit au repos. Ça ressemble à quoi pour moi du repos? Puis comment est-ce que je peux tranquillement être de plus en plus confortable à me reposer? Et de quelle façon pour moi? Pas moi, Marie-Ève, qui vous dit qu'il faut se coucher à 10 heures parce qu'il y a une recherche qui a dit qu'il faut se coucher à 10 heures. Là, comme non.
Ah, tellement. Puis tu sais, tu parles de la culpabilité, justement, par rapport au post Instagram, tu sais, le fait de ne pas investir 2 heures en nous.
Ouais.
Mais l'autre affaire aussi qui est ultra culpabilisant, je trouve, comme discours, c'est, tu sais, les gens qui vont dire... Ah, mais tu sais, si t'as pas d'enfant, tu sais pas c'est quoi la fatigue.
Ouais.
Je suis comme, mais à quel point c'est invalidant? Tu sais, parce qu'on s'entend que, tu sais, moi, j'en ai une fille, là, de 8 ans.
Ouais.
Je sais c'est quoi pas dormir pendant 18 mois, tu sais, comme que ton sommeil est vraiment impacté, mais, tu sais, je pense pas que c'est plus valide comme fatigue que quelqu'un qui travaille de nuit ou qui a un autre genre de beat qui s'occupe d'une personne. Puis, ouais, je trouve que des fois, il y a comme une espèce de culture de qui c'est qui est plus fatigué, finalement.
Ouais,
c'est qui a le droit d'être fatigué?
Ouais, c'est ça. Il y a comme une compétition
de
la victime, là. Ouais, ouais. Non, on le vit tout différemment, tu sais. Puis Il y a des gens qui vivent aussi avec de la fatigue chronique.
Oui.
Fait qu'on ne sait jamais là, qu'est-ce que la personne vit en arrière. Peut-être qu'il y a une personne qui est en rupture. Elle n'a pas d'enfant, mais tu vis une rupture puis tu dors pas tant que ça. Là, oui. Ou tu dors trop. Peut-être des gens qui font des dépressions. On n'est jamais au courant de ce que les gens vivent en arrière. Tu sais, puis tu as tout à fait raison. Il ne faut pas invalider la fatigue des gens. Parce que moi, je suis une personne seule, pas d'enfant, puis je suis fatiguée, puis je suis c'est la personne qui perd le droit au repos parce que je suis tout le temps fatiguée.
C'est ça. Oui, vraiment. Puis, tu sais, comment tu dirais que ton expérience d'épuisement a amené à teinter ta vision entrepreneuriale? T'sais, à quel point ce que tu as vécu s'inscrit dans ce que tu fais avec ton entreprise? Ou dans la manière que tu le fais aussi, tu sais.
Ouais. C'est quasiment un combat de chaque jour.
OK.
Ouais, en toute transparence, c'est ça. Mais je le redis, j'ai une personnalité intense, fait que... Puis je suis au courant. Fait que c'est juste qu'il faut que je fasse tout le temps un peu attention à ça. Fait que ma vie n'est pas du tout parfaite. Je ne suis pas la personne la plus reposée du monde. Mais j'essaie fort de faire attention à moi pour prouver que c'est possible en ce moment de bâtir une entreprise sans m'épuiser. Puis c'est ça, c'est ce que j'essaie de faire. Fait que j'ai vraiment des... j'aimerais ça dire là, que je bloque mes dimanches puis des affaires de même, mais comme c'est pas ça. Mais à tous les jours, je me dis, OK, est-ce que j'en ai fait trop? C'est quoi mon niveau d'énergie? Est-ce que je suis capable de continuer? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis pas capable de continuer? Quand je suis dans ma semaine, quand je suis dans mes menstruations, est-ce que je peux être plus douce? Est-ce que je peux faire un peu moins de travail ou trouver du travail qui est plus facile peut-être mentalement que de faire un podcast, par exemple, ou essayer là, de créativement créer des posts sur Instagram, des choses comme ça. Fait que c'est ça, c'est comme un... Tu sais, comme je bâtis mon entreprise en ce moment... En n'ayant pas de règles, mais en me posant régulièrement la question, est-ce que je suis en train d'être trop fatiguée puis de pousser en ce moment?
T'amènes de la conscience, finalement.
J'amène plus de la conscience.
Ouais. Ça, je pense qu'on a tous besoin de plus. En tout cas, je parle par expérience parce que, tu sais, par les entrepreneurs que j'ai accompagnés, par même moi, tu sais, combien de fois je me rends compte à quel point je me suis comme pas poser la question, comme j'en ai-tu fait assez pour la journée? Puis, tu sais, le feeling, c'est souvent que non. Tu sais, c'est ça aussi, là. Le sentiment de quand j'aurais voulu là, terminer tel truc. Puis, on est souvent, puis c'est un constat aussi, là, on est souvent plus difficile avec nous-mêmes que ce que nos propres patrons dans les entreprises auraient été. Là.
Oui, 100%. Ouais. 100%. Ben, je pense que c'est pour ça que c'est important de faire la réflexion personnelle aussi, tu sais, de pourquoi est-ce que moi j'ai de la difficulté à ralentir, tu sais, puis à me reposer. Là. Qu'est-ce qui fait que je me donne pas vraiment ce droit-là? Fait que c'est vrai qu'on est plus dur avec nous-mêmes parce que je pense qu'on se pose pas assez la question, puis je pense qu'on court beaucoup. Dans le sens où on est tout le temps en train de faire quelque chose, puis là, le soir, on a un cours de Zumba, de yoga, faut amener le petit à piscine. Fait que c'est comme si on s'arrêtait jamais, puis la journée où on commence à s'arrêter, sincèrement, là, faites l'expérience de vous obliger à vous asseoir sur le divan 5 minutes, voir tout ce qui sort de la tête parce qu'on s'est obligé à s'arrêter pendant 5 minutes. Fait que c'est ça, on court tout le temps, on est tout le temps dans un sentiment d'urgence, d'hypervigilance, puis de s'arrêter nous aide tranquillement à comprendre que c'est peut-être pas si urgent que ça tout. J'ai peut-être pas besoin de tout accomplir ça. J'en ai peut-être beaucoup accompli quand je m'arrête. Moi, personnellement, ça m'aide à voir tout ce que j'ai accompli. Tu sais, comme là, en début d'année, là, les gens faisaient des résolutions. Moi, je faisais un bilan de mon 2023. Parce que j'en fais beaucoup, puis j'ai l'impression que j'en fais jamais assez. Fait que je me suis assis, j'ai regardé tout mon agenda de 2023. Puis j'ai fait, yo, j'en ai fait beaucoup.
Eh bien oui, je trouve que le bilan, c'est le plus bel exercice à faire à la fin de l'année ou en début d'année, là, dépendamment du moment. Puis t'as raison, on a l'impression que des fois, on est comme, c'est ça, puis on sous-estime tout ce qu'on peut faire en une année et on surestime ce qu'on peut faire en une journée. Fait que ce qui fait qu'au day-to-day, on rajoute des tâches en se disant, hey, moi, mon agenda est à côté, là, sur mon bureau, puis je me suis, à chaque fois, tu sais, puis là, j'essaye, là, de plus faire ça, mais tu sais, je vais planifier certaines tâches dans les disponibilités dans mon agenda, puis des fois, je suis comme, mais à quel point tu avais pensé que c'était possible de tout faire ça? Tu sais, à quel point je surévalue le temps disponible. Ah ouais, là, j'ai un 4 heures. Tu sais, je vais avoir du temps. J'ai 4 heures, mon Dieu, je peux en faire des choses.
Mm-hmm.
Mais non, pas autant. Puis dans une année, ben on sous-estime toutes les choses qu'on a fait. Puis les...
Ouais.
Fait que, ouais, ça, c'est une bonne idée d'en prendre conscience.
Ouais, c'est vraiment ça, de la conscience. Je pense que la question, moi, qui m'a aidé le plus à cheminer, là, il y a peut-être 3 ans que j'ai commencé à me poser cette question-là, puis je vous la laisse. Elle est longue et difficile. C'est qu'est-ce que je suis si je suis pas mon travail? Ça a été dur. Parce qu'on se valorise beaucoup par notre travail, puis on s'identifie à notre travail.
Ouais.
Puis c'est très correct. J'ai rien contre ça. Mais je suis un être humain avant ça. J'ai une personnalité. Je suis Marie-Ève. Puis j'ai des aspirations qui ne devraient pas juste être avec mon travail. Puis j'ai des valeurs qui ne devraient pas juste être associées à mon travail. Fait que c'est quoi ces valeurs-là? Qu'est-ce que je suis avant même que j'essaie d'atteindre des objectifs ou que j'essaie de travailler? T'sais, c'est quoi? C'est qui Marie-Ève? T'sais? Puis pourquoi est-ce que je me suis ramassée en enseignement? Puis pourquoi est-ce que là, j'essaie de donner des conférences? Puis pourquoi est-ce que j'aime parler dans des podcasts? T'sais, ça fait partie de mes réflexions de... Ah, ben je pense que je suis une enseignante de cœur, tu sais. J'aime enseigner, j'aime parler aux gens. Mais ça n'a rien à voir avec le travail que je vais avoir. Je peux enseigner puis parler aux gens, peu importe le travail que je vais faire. Puis ça me définit comme personne. Je suis une enseignante. Mais pas physique dans une école, tu sais. Ouais. Mais ouais, qui est-ce que vous êtes si vous n'êtes pas votre travail?
C'est une bonne question. Avez-vous pris des notes?
Oui, hein? Ouais, allez-y.
Mais c'est vrai, puis on se rend compte aussi, tu sais, dans ce qu'on me raconte, certaines personnes m'ont raconté, tu sais, des fois, justement, tu fais un changement de professionnel, puis des fois, ça prend du temps avant que les gens découvrent c'est quoi leur passion. Tu sais, quand tu te rends compte, tu te ramasses en burn-out, mettons, tu te rends compte que le métier que tu faisais, il te correspond plus au niveau, tu sais, des valeurs, au niveau du rythme de vie.
Mm-hmm.
Tu te ramasses en désalignement qui te mène à un épuisement, à une dépression. Puis là, il faut que tu retrouves qu'est-ce que tu vas faire. Puis des fois, c'est ça, mais c'est quoi mes forces, tu sais? Puis on se demande, c'est quoi les compétences que je peux transférer dans une autre carrière? Mais avant ça, c'est comme les gens finissent par plus comme, ben moi, j'ai toujours fait ça, tu sais? Comme, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Parce qu'on s'est tellement identifié à ce métier-là. Puis c'est une bonne question, là. Qu'est-ce qui on est si... on fait pas ce travail-là, effectivement.
Ou si on travaille pas, point. Si j'avais pas un travail à chercher, s'il fallait pas que je sois enseignante, s'il fallait pas que j'ai une job de 9 à 5, s'il fallait pas que je paye mon toit puis que je travaille dans un café, si j'avais pas à travailler dans la vie, je serais qui? Pas je ferais quoi, je serais qui? Pas genre si t'avais toute la possibilité du monde, quel travail tu choisirais?
Ouais. C'est une autre question.
T'es qui si t'avais rien à faire?
J'aime ça. Est-ce que dans tes services, tu parlais des packages et tout ça, est-ce que tu fais de l'accompagnement avec des gens par rapport à justement le peut-être l'équilibre vie professionnelle, repos?
Je sais pas vraiment. C'est comme une bonne question. Puis c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi beaucoup. C'est comme un peu la mode de faire des accompagnements, puis des one-on-one, puis des programmes, puis tout ça. Rien contre ça. Mais j'y vais plus sur le large, dans le sens où c'est ça. J'ai des packages de méditation puis de téléchargement de siestes, de micro-siestes guidées, qui ça aide les gens individuellement. Mettons les travailleurs autonomes ou les gens qui travaillent à la maison, si vous voulez vous aider à vous endormir le soir. Puis après ça, c'est ça, j'ai des services en entreprise, puis je suis, c'est ça, je fais pas de one-on-one parce que j'ai envie que le message que je porte m'aide à bâtir une communauté de gens reposés. Fait que j'ai pas vraiment de solution, tu sais, comme si on se parle, puis que tu me dis que t'es fatigué, on peut s'en jaser 1h30, ça va te faire du bien, je peux sûrement t'aider là.
Ça va me dire, va te coucher.
Non, mais tu sais, je peux t'aider à réfléchir puis à agrandir ta réflexion. Puis j'ai plein d'outils là, en arrière des mains. Après ça, il reste à décider lesquels vont fonctionner pour toi. Mais c'est pas ça que je veux faire. Je veux parler de droit au repos. Je veux que les gens réfléchissent ensemble à « Hey, j'étais fatiguée finalement. » Puis là, on se réveille d'une micro-sieste guidée en entreprise. Puis là, les gens font comme « Hey, ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi relax ou pourquoi? » Puis là, on en réfléchit en groupe. Puis on réfléchit au sommeil en groupe aussi parce que ça va plus loin que juste la micro-sieste guidée. Fait que c'est ça. Je pense que c'est ma lignée. Ça a été de ne pas vouloir offrir du coaching one-on-one ou des programmes. Je le fais encore en méditation, par exemple, là, pour les one-on-one, puisque ça, je suis capable.
Okay.
mais dans le sens que je suis capable, que j'ai comme un programme dans ma tête qui peut aider les gens à méditer. Puis je suis capable d'écouter puis d'avoir 101 solutions pour la méditation. Mais la relaxation, j'ai pas envie de faire ça avec ça. J'ai pas envie de juste le brander puis de le marketer comme quelque
mais
chose
non,
que
je comprends.
De vendre. Je trouve que ça fait pas de sens. Je le fais avec la méditation puis les siestes.
Mais c'est quoi la distinction que tu fais? Parce que, mettons, dans la méditation, tu vas accompagner les gens à arriver à méditer ou à...
Ça dépend des objectifs de chacun. Là. C'est ça, c'est pour ça qu'après ça, c'est du one-on-one. Là. Mais je dirais que j'ai quand même un bon 5-6 étapes qui aident beaucoup, beaucoup les gens à méditer avec des méditations très, très simples. Après ça, je suis capable... C'est que j'ai tellement de connaissances en méditation que je suis capable de comprendre c'est quoi ton objectif.
Mm-hmm.
Puis on va en tester plein. Puis on va réussir à trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Puis à la fin, tu sais, je vais enregistrer une méditation personnalisée pour toi. Puis de toute façon, on va en discuter tout le long. Puis comment s'asseoir, pas s'asseoir, comme tout ça. Ça, pour moi, ça peut être très structuré, réussir à méditer.
Okay.
Puis la relaxation, pour l'instant, pour moi, c'est trop large.
Ouais.
Puis c'est une discussion de communauté, de société que j'ai envie qu'on aille. Fait que je suis pas allée là-dedans.
Oui. Non, je comprends ta vision, mais tu sais, je te disais ça parce que je trouve que t'as comme une belle sagesse à partager. Puis dans le fond, peu importe le format que ça va prendre, ben, tu sais, tant que ça se rend aux bonnes personnes, ben, c'est ça qu'il faut, là. Puis je trouve ça beau dans cette mission-là. Puis ça m'amène à te poser la question. Toi, dans l'avenir, qu'est-ce que tu vois comme projet, arrives-tu comme à projeter dans le futur? Qu'est-ce que t'aimerais? Tu parles de créer, tu sais, une communauté ou un mouvement de réflexion par rapport au repos. Qu'est-ce que tu t'imagines dans ta tête pour la suite?
Pour la suite? Ça fait juste 9 mois que j'essaie de promouvoir.
Je parle comme si ça fait 10 ans, ouais.
Non, mais ça fait au moins 4-5 ans là, tu sais, que j'en parle quand même assez ouvertement puis que j'y réfléchis beaucoup. Ça fait 9 mois là, officiellement que je dirais que je suis en démarchage puis que j'essaie de structurer ça. Pour l'instant, je pense que 2024, ce que ça va être, c'est... J'ai beaucoup poussé à essayer de rentrer dans les entreprises. Je commence à y arriver. Mais ce que je vois qui fonctionne vraiment bien, puis c'est ça que j'essaie encore plus de pousser ces temps-ci, c'est des collaborations ou des partenariats, tu sais. J'ai pas envie... J'ai découvert en 2023 que j'ai pas tant envie d'essayer de juste réussir à ce que mon entreprise ait du succès tout seul, puis de prouver que j'ai réussi à rentrer dans une entreprise toute seule, puis que j'ai fait des siestes toute seule. J'ai comme vraiment envie de trouver des collaborations de gens qui croient à mon message aussi, parce que j'ai l'impression que c'est quand même très niché, c'est très petit.
Ouais.
Puis j'ai comme plus envie de m'insérer dans des formations, des programmes, des lacs à l'épaule, des conférences, des grosses journées au bureau où il y a 2 conférences qui n'ont pas rapport avec moi, mais le midi, on parle de sommeil, on relaxe un peu plus, on lunch ensemble, on digère, on sieste, on repart la journée. Fait que j'ai envie de faire des partenariats puis des collaborations, puis je pense que c'est ça qui va arriver en 2024. Je pousse là-dessus des retraites. Puis pas de retraite tout seul. Je veux pas de suite, je suis pas prête.
Ça non, c'est ça, c'est ça.
J'ai envie d'aller dans des retraites de pilates, tu sais, de zumba, de full performance, puis d'offrir dans ce moment de performance-là une soirée qu'on relaxe puis qu'on prend le temps de relaxer puis qu'on réapprend à ralentir. J'ai pas envie de faire ça tout seul, je pense, au final.
Très cool. Mais ça marcherait tellement bien, en fait, parce qu'effectivement, dans ces événements-là, souvent, les programmes sont super chargés puis, souvent, les thématiques, en plus, sont comme... Je parle de mon expérience personnelle, mais souvent, les thématiques... En théorie, tu sais, tout le monde veut relaxer, tout le monde veut réduire son stress. En théorie, tout le monde veut un équilibre vie professionnelle, vie personnelle et repos. Mais dans la pratique, c'est tout autre. Fait que je pense que déjà de commencer par intégrer des ateliers de comme tu proposes, c'est déjà une grosse étape là, de plus.
Merci, c'est gentil.
Hey, je te le souhaite. J'espère qu'il y en a qui vont écouter, qui organisent des retraites, des événements qui vont passer. Oui, à venir te poker par rapport à ça. Puis j'aime ça aussi demander à mes invités s'ils ont des outils ou des lectures ou des choses qu'ils veulent partager en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais nous partager?
Oui. Ben écoute, self-promotion, mais allez sur mon site internet, espacemental.com. J'ai une relaxation de 5 minutes qui est disponible, qui est gratuite, que vous pouvez essayer là, en vous abonnant à l'infolettre. Désabonnez-vous si vous voulez après, ça ne me fera rien. Mais essayez-la, c'est vraiment ça. Comme je veux que vous l'essayiez, premièrement. Après ça, sur le site, si jamais ça vous intéresse, j'ai des téléchargements. Sinon, dans les livres qui, moi, m'ont énormément inspiré ou les personnalités qui m'ont inspiré, il y a Tracy Stanley, qui fait des formations en relaxation profonde, en yoga nidra. Une personne, allez voir son Instagram, là, 100%. Ah ouais. Elle parle beaucoup de repos, justement, puis du droit au repos en anglais, est aux États-Unis. Dans les très bons livres à lire, juste pour reconnecter avec notre sommeil, il y a Why We Sleep, Pourquoi est-ce que nous dormons, de Matthew Walker. C'est un scientifique qui a fait quasiment 40 ans de recherche sur le sommeil. Mmh. Puis il y a un livre qui est sorti de ça, puis c'est à tomber par terre. Dans les trucs plus revendicateurs, vraiment intéressants, il y a The Nap Ministry, que vous pouvez trouver sur Instagram, mais que Trisha Hershey a aussi écrit un livre qui s'appelle Right to Rest, je pense. En tout cas, j'ai oublié le nom pour l'instant.
On va le mettre dans les notes, c'est pas grave.
Puis, je trouve que c'est vraiment une belle vision. C'est intense. C'est très revendicateur, c'est okay. Très tranché comme opinion. Puis, c'est une personne noire qui parle justement aux États-Unis de la réalité des personnes noires qui ont encore probablement plus de difficultés, pas probablement, ils ont encore plus de difficultés à se reposer. Tout ça pour vraiment plein de raisons, dont l'esclavagisme qu'ils ont vécu il y a quelques générations. Fait que ça apporte comme une couleur nouvelle à toute cette réflexion-là. Ouais, fait que ce serait les trois, quatre si je m'inclus. Chose
ben
à
oui,
lire.
On t'inclut certainement. On t'inclut là-dedans. Je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode. Ouais, tu m'enverras ça, parce que c'est des belles, c'est des belles lectures. Puis c'est ça, toi, est-ce que tu... Ça me fait penser. Est-ce que toi, tu te considères comme revendicatrice dans ton... Ouais? Dans ta façon d'aborder.
Je suis soft.
T'es soft, hein, ouais.
C'est soft comme revendication. Là. Il y a les gens que je suis qui revendiquent là, sont vraiment anticapitalistes, là, mais à 100%. Tu sais. Okay. Puis, c'est un peu rare que j'en parle du capitalisme, même si c'est tout le temps à l'arrière de ma tête. Tu sais.
Ouais.
Mais c'est ça, j'y vais intense, mais tu sais, pas trop. C'est-à-dire que je reste dans la zone que je considère connaître, qui est moins la politique, le capitalisme, puis les mouvements politiques, puis qui est vraiment plus... Ça fait 4 ans, 5 ans que je réfléchis au repos. Ça fait 4 ans, 5 ans que je parle avec des gens qui réfléchissent au repos depuis des décennies. Voici mes réflexions.
Mais c'est vrai que ça a tellement un lien aussi avec le politique puis avec le et même économique et tout ça. Là, on en a moins parlé, mais c'est vrai que tu sais le fait qu'on ait été autant, on va dire, entraîné à travailler fort puis que ce soit autant valorisé, ben c'est aussi que ça... Ça profite à des gens quelque part, là, tu sais. Puis...
Ben oui.
Ouais.
Ben oui. Ben oui. Puis toute la pression est sur la strate de la société qui est la plus pauvre, tu sais. Toute la pression économique est là-dessus. Puis c'est nous qui sentons mal de ne pas assez travailler.
Ouais.
Mais c'est nous qui travaillons en crime. Puis souvent, les gens, puis tu sais, on peut finir avec ça, mais les gens, puis ça, c'est une réflexion que j'ai depuis peut-être un an, puis que j'essaie d'observer autour de moi. Les gens qui travaillent le plus, ben honnêtement, là, c'est les gens qui sont payés au salaire minimum. Là. Les gens qui travaillent dans des usines, les gens qui travaillent dans des cafés, les gens qui travaillent dans les épiceries, les éboueurs, nomme-les. Les gens qui travaillent le plus fort sont souvent les gens qui sont dans les salaires les plus bas de la société. Puis le salaire n'équivaut pas à quel point tu travailles fort. C'est-à-dire que, oui, mettons, un médecin qui gagne beaucoup, oui, il travaille fort, mais est-ce qu'il travaille... Mettons qu'il gagne 10 fois plus que quelqu'un qui travaille dans un café. Mmh. Est-ce qu'il travaille 10 fois plus que la personne dans un café?
Mmh.
Non. Il y a des études. Mais après ça, on peut y aller de plein de façons. Un politicien ou un PDG d'une grosse compagnie qui fait peut-être 300 000, est-ce qu'il travaille 20 fois plus fort qu'un éboueur? Le salaire n'a pas de sens nécessairement. Le salaire, pour moi, n'a pas de lien avec... travailler fort ou pas. On travaille tout fort à notre façon. La personne qui fait 300 000, la personne qui fait 30 000 dans son année. Mais le salaire, on l'a beaucoup associé à « Ah, oh, je travaille fort parce que comme je fais un gros salaire, donc je travaille fort. » Les personnes qui font un petit salaire ne travaillent pas fort quand c'est absolument pas ça.
Mais c'est parce que j'ai l'impression en plus que c'est ça qui fait en sorte que quand on arrive dans le monde de l'entrepreneuriat, des messages comme « travaille 10 heures par semaine et gagne dans les 7 chiffres », ça devient aussi alléchant parce que là, on renverse l'espèce de... Tu sais, on renverse l'espèce de mythe. Puis là, ils vont dire que c'est des croyances limitantes, qu'il faut travailler fort pour faire de l'argent. Fait que là, je m'évade un peu du sujet, mais c'est vrai que c'est...
Non,
on nous a induit beaucoup de... beaucoup de concepts par rapport au travail puis à la notion d'effort. Fait que je trouve ça super intéressant. Ouais. On finit sur une note très philosophique, mais si vous voulez continuer la conversation philosophique, vous pouvez venir nous jaser en message privé sur Instagram. Si ça vous intéresse. Puis, hey, c'est super intéressant. Merci, Marie-Ève.
Merci. Puis, merci d'avoir débordé de ton sujet, du marketing. Je sais qu'on est beaucoup là-dedans, normalement, dans ton podcast. Mais
Je parle de marketing et d'entrepreneuriat. Fait que considérais qu'on touchait à la sphère entrepreneur avec ce sujet-là. Puis, je trouve ça important d'aborder cette question-là. La façon que tu l'amènes, je me suis dit. Je suis pas toute seule là, à pas me sentir aussi légitime ou de pas toujours m'autoriser justement cette sieste-là sur le divan qui finalement me fait du bien. Fait que Marie-Ève nous autorise aujourd'hui. Donc, tout le monde, si vous ressentez le besoin.
Je vous autorise et travaillons ensemble à ce que vous autorisiez pour que vous ayez plus besoin de moi maintenant. Là.
Exact. Ouais. Soyons autonomes de la sieste.
Et du repos.
Oui, c'est ça, et du repos. C'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Génial, fait que j'invite tout le monde à venir te suivre sur Instagram. Je vais mettre aussi les liens dans les notes de l'épisode des ressources qu'on a discutées. Mm-hmm. Puis j'invite les gens à télécharger ta méditation puis à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux par la suite. Fait que un gros merci.
Merci.
Bye! J'espère que tu as aimé cette entrevue. Comme je le disais dans l'introduction, au départ, quand Marie-Ève m'a suggéré ce sujet du droit au repos, j'ai été intriguée. Je me demandais si ça allait vous intéresser. Puis en même temps, je me suis dit, j'ai quand même une mission moi aussi de partager des messages qui sont sains par rapport à la vision de la performance, du succès et de l'équilibre aussi qu'on doit avoir comme dans notre vie, en fait, comme entrepreneur, je dis toujours, mais dans notre vie aussi, en général, dans toutes les sphères finalement. Donc, j'espère que les messages de Marie-Ève ont fait écho chez toi, que ça l'a peut-être ouvert des petites portes de conscience. Puis, n'hésite pas à venir me le partager sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, si tu veux. Je suis aussi sur LinkedIn, pas hyper présente, mais quand même, si tu as envie de venir me partager ce que ça te fait d'écouter cette entrevue, cette belle discussion, si tu as envie aussi d'aller parler avec Marie-Ève, je t'invite chaudement à le faire si tu veux réagir aussi à des propos partagés. C'est vraiment cool d'avoir cette interaction-là par après. Donc voilà, je te souhaite encore une fois une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!